23. Élise. J'ai appelé Thomas pour lui parler de son chien. Il est malheureux pour lui, mais son appartement est trop petit. Il ne peut pas le prendre à Paris. En attendant d'avoir mon fils à l'usure, je ne pouvais laisser Édouard seul. Il est assis à mes pieds sous mon bureau. Il ne s'allonge pas, il reste sur le qui-vive. La nouvelle de sa présence a fait le tour des services et nombre de collègues sont venus constater par eux-mêmes la laideur de l'animal, le gratifiant d'une caresse au passage pour leur karma. Même Olivier, d'ordinaire aussi avenant qu'une mycose, lui a gratté le cou.
« Tu es sûre que c'est un chien ?»
me demande Nora en le fixant avec circonspection. « Arrête, il a juste une drôle de tête. »
« C'est fascinant, à mi-chemin entre la chauve-souris et le balai à chiottes. Je suis... »
Elle est interrompue par Madame Madinier qui sort de réunion.
« Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? »
s'exclame-t'elle en se raidissant. Nora glousse. Instinctivement, je ressens le besoin de prendre la défense d'Édouard.
« C'est un chien. » « Merci, je vois. Je suis heureuse que vous ayez écouté mes conseils et trouvé un compagnon, mais est-il vraiment indispensable d'en faire profiter tout le monde ?»
Je m'apprête à me justifier, à lui rappeler que plusieurs salariés de la société viennent travailler chaque jour avec leur animal, que c'est autorisé par la direction, que le PDG lui-même ne se déplace jamais sans son lévrier, mais sa remarque n'attendait pas de réponse. Elle continue son chemin et s'installe à son poste en maugréant. À midi, le restaurant d'entreprise étant interdit aux animaux, je déjeune dehors. Une salade, dans le parc jouxtant mon bureau. Pour la première fois depuis le départ de Thomas, Édouard semble revivre. Il renifle frénétiquement le sol, tire sur la laisse, virevolte, sent le derrière de ses congénères et, quand l'odeur lui sied, sautille en remuant la queue pour fêter cette nouvelle amitié. Au bout d'une demi-heure, il a sympathisé avec un dalmatien, un caniche, un canne corso, un boule terrier et un truc qui ressemble à une chèvre mais qui aboie trop pour en être une. Moi, je n'ai sympathisé avec personne. Je ne tente pas. Et je crois percevoir que les autres maîtres n'y tiennent pas particulièrement non plus, hormis le vieux monsieur au caniche, dont je connais en détail la dernière coloscopie. Ce contraste m'interpelle. Mon chien semble plus doué que moi. Petite, j'étais sociable. Je ne m'encombrais pas de timidité ou de convenance. Si j'avais envie d'aller converser avec un autre enfant, je ne m'en empêchais pas. Et j'étais toujours accueillie chaleureusement. Nous échangeions parfois nos prénoms et quelques informations basiques. Parfois, nous passions directement au stade supérieur et nous partagions un château de sable, un toboggan, des confidences, un moment. Je me souviens d'une fois au parc, je devais avoir 6 ou 7 ans. Sur le tourniquet, nous étions 4 enfants et immédiatement, une complicité s'était créée. À tour de rôle, chacun poussait la roue pendant que les autres riaient à gorge déployée. Sur le banc, les parents avaient laissé une distance de sécurité entre eux et nous surveillaient sans s'adresser un mot. Au retour, j'avais demandé à ma mère pourquoi les adultes ne jouaient plus. C'était simple alors. C'est à l'adolescence que le changement s'est produit. Le regard des autres est devenu important. Ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas, primait désormais sur l'envie. Et puis, il y a eu les déceptions, les trahisons, les murs érigés pour se protéger, les douves creusées pour décourager les assaillants. Aujourd'hui, je suis devenue l'une des adultes du banc. Lorsqu'un inconnu m'adresse la parole, je me sens presque agressée. Je juge étrange ceux qui engagent la conversation dans les lieux publics. Quand je n'ai pas le choix, avec le facteur, avec un voisin, avec la boulangère, je me cantonne aux traditionnelles formules de politesse en espérant que cela suffira à les dissuader. Précédée d'Édouard, visiblement ravi de sa balade, je me dirige vers le bâtiment qui abrite mon entreprise sans le quitter des yeux. Ce chien a le physique d'un gremlins et l'odeur d'une station d'épuration. Mais il a plus d'amis que moi. Dans cette période où je cohabite avec la solitude, je devrais probablement en tirer les leçons. Peut-être devrais-je détruire mes remparts et baisser le pont-levis. Je n'ai rien à perdre, tant que je n'ai pas à renifler le derrière de mes congénères.
24. Lily. Je n'ai pas beaucoup dormi. Florence m'avait expliqué que je pouvais les appeler aussi souvent que je le souhaitais pour prendre de tes nouvelles, de jour comme de nuit. Les 3 premières heures, j'ai tenu bon, je ne voulais pas les déranger, elles étaient suffisamment occupées. J'ai téléphoné juste avant de me coucher. C'était une puéricultrice que je ne connaissais pas. Quand je lui ai donné ton prénom, elle est restée silencieuse un moment avant de m'apprendre que tu dormais paisiblement. J'ai raccroché en tremblant, le sang figé dans mes veines. ces quelques secondes de mutisme avaient duré des heures. J'avais eu le temps d'imaginer qu'elle hésitait sur la manière de m'annoncer la terrible nouvelle, d'entendre ses mots, de ressentir la brutalité du choc, de visualiser la réaction de ton papa. Je n'ai pas pensé qu'il m'aurait prévenu. Ma raison avait été totalement engloutie par ma peur. Plus jamais je n'appellerai. À 5 heures du matin, alors que je venais d'être assommée par le sommeil, un bruit de vaisselle cassée m'a réveillée en sursaut. Persuadée de découvrir le chat en pleine escalade des placards, comme à son habitude, je me suis dirigée vers la cuisine sans prendre le temps de me vêtir. Quelle ne fut pas ma joie de tomber sur ton grand-père paternel en pyjama, affairé à ramasser des morceaux d'assiette. Il a bredouillé quelques explications, il avait eu une petite faim, pendant que je m'enroulais dans le rideau, à défaut de me pendre avec. J'avais totalement oublié leur présence. Mon cerveau refuse de l'intégrer. Hier soir, quand on est rentré, la maison était étincelante et un repas délicieux nous attendait. Même si j'avais envie de tout sauf de faire la conversation à mes beaux-parents, je les ai remerciés. C'était attentionné de nous avoir préparé cette surprise pour notre retour. Ta grand-mère a rosi comme un magret.
Oh, vous savez, Lily, c'est notre rôle de veiller au bien-être de nos enfants. Ne vous inquiétez de rien, on s'occupe de tout.
J'ai continué à mâcher ma crevette, inconsciente de ce qui se tramait. « Nous dormirons sur le canapé », elle a poursuivi. « À moins que vous teniez à nous laisser votre chambre. » La crevette s'est coincée dans ma gorge. « Comment ça ?» j'ai articulé en lançant des regards effrayés à ton père. Il ne réagissait pas, absorbé par le curage de son avocat. J'ai posé mon pied sur le sien et appuyé doucement. Il a gémi.
« Aïe, pourquoi tu m'écrases le pied ?»
J'ai observé le noyau de l'avocat. J'ai résisté très fort à mon envie de jouer au basket avec la bouche de ton papa en guise de panier, puis j'ai expliqué à ta grand-mère que c'était très généreux, merci infiniment, mais qu'on s'en sortait tout seul, vraiment. Ils avaient certainement beaucoup d'autres choses à faire. Elle m'a regardée comme si j'étais en CP.
Fais-moi confiance, Lily, je sais ce qui est bon pour vous. Le mieux est qu'on s'installe ici tant que la petite est hospitalisée.
Quelqu'un veut du gratin dauphinois ? Ton père a tendu son assiette. La discussion était close. La voix de ton grand-père m'a ramenée dans la cuisine à 5 heures du matin, vêtue de mon rideau et de ma honte. Il a nettoyé le sol, rangé le saucisson et le beurre, puis a quitté la pièce en me souhaitant une bonne nuit, alors qu'il venait d'y mettre un terme. J'ai lâché le rideau et examiné ma tenue en essayant de me persuader que ça aurait pu être pire. Je portais un t-shirt froissé, une culotte taille haute garnie d'une protection périodique épaisse comme un traversin et des bas de contention blancs qui m'arrivaient aux genoux. C'était vrai, ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir une plume dans le cul. J'ai poussé la porte de la néonate aux aurores. Te voir à tout gommer. Tu dormais, entouré de l'espèce de boudin de tissu qui fait office de cocon. Ton doudou posé à portée de main. Il était presque aussi grand que toi. J'ai pris de tes nouvelles auprès de Laetitia, l'auxiliaire de puériculture présente. Tu avais passé une bonne nuit, même s'il avait fallu augmenter de nouveau le taux d'oxygène à cause d'une légère diminution de ta saturation. On m'avait averti que des régressions viendraient inéluctablement émailler les progrès. Pourtant, l'angoisse a serré ses mains autour de ma gorge. J'ai attendu d'être dans la salle des familles pour m'effondrer. Tu dois penser que je passe mon temps à pleurer. Tu ne me croiras pas si je t'apprends que, avant toi, hormis ton grand-père et ta marraine, je n'avais jamais sorti mes larmes devant quiconque. Pas même ton papa. C'était devenu un défi pour lui, réussir à m'extirper quelques sanglots. Il m'a fait visionner les films les plus tragiques, m'observant sans retenue à chaque scène sensible. Il m'a fait lire les histoires les plus terribles, écouter les musiques les plus mélancoliques. Il m'a raconté les faits divers les plus atroces, en vain. Mon chagrin était timide. Il ne parlait pas en public. C'était trop intime. À choisir, je préférais montrer mes fesses que mes larmes. Je suis ravie. Depuis ta naissance, des dizaines de personnes ont pu admirer les deux. J'ai eu besoin d'un café. La salle des familles était plongée dans la pénombre. Le soleil se levait, les fenêtres du bâtiment d'en face commençaient à s'éclairer. J'ai allumé la cafetière en hoquetant bruyamment quand un claquement de langue m'a fait sursauter. Allongée sur le canapé, la maman qui ne quitte jamais le service me lançait un regard noir. J'ai bredouillé des excuses, puis déposé une tasse pleine à côté d'elle avant de te rejoindre. Je t'avoue que c'était plus par peur que par bienveillance. Cette femme m'effraie. Elle ne répond pas quand je la salue, je n'ai jamais entendu le son de sa voix, elle marche vite, ses gestes sont brusques. Chaque fois que je la croise, elle me regarde comme si elle allait faire de moi une nature morte. Je dois me retenir pour ne pas placer mes bras en garde devant mon visage. Ton papa nous a rejoints en fin d'après-midi. Il a repris le travail ce matin. Il t'a apporté 3 nouveaux doudous offerts par les collègues. Il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre ses parents sur le tapis, même si j'aurais préféré qu'il les roule dedans. J'étais pas au courant pour mes parents.
Je sais. Tu leur as demandé de partir ?
Il a pris ma place sur le fauteuil, ôté son t-shirt et tendu les bras afin que je t'installe contre lui. Mais pas l'ombre d'une réponse.
Tu leur as demandé de partir ?
Il a haussé les épaules.
Il cherche juste à nous aider.
Il avait sans doute raison, mais cela ne changeait rien. On leur avait confié nos clés pour qu'ils nourrissent le chat, pas pour qu'ils emménagent avec nous.
Je sais, j'ai répondu. Mais moi, je cherche juste à être tranquille quand je rentre chez moi.
Tu les connais, ma puce, ça sert à rien de lutter. Ils sont pas méchants, ils veulent bien faire.
Je lui ai expliqué ce que je ressentais. Bien sûr que ses parents n'étaient pas de mauvaises personnes, ils faisaient leur possible pour nous rendre la vie moins difficile. Hier, au dîner, ta grand-mère avait anticipé le moindre besoin de ton papa. Son verre était toujours rempli, son dessert servi à peine la dernière bouchée du plat avalé. J'avais été indépendante très jeune, peut-être souffrais-je d'une sensibilité exacerbée à ce niveau, mais je trouvais insupportable leur propension à nous considérer comme des enfants. À presque 30 ans, il était temps de couper le cordon. Il a prononcé sa réponse d'une voix douce, comme pour en atténuer la violence.
Lily, j'entends ce que tu me dis, mais tu devrais être contente de ne pas avoir à t'occuper de la maison et de pouvoir te consacrer à notre fille. De toute manière, tu les connais, ils n'en feront qu'à leur tête. Mais si ça te gêne, tu n'as qu'à voir ça avec eux.
Je n'ai pas surenchéri. Je savais que c'était peine perdue. Ton papa était incapable de s'opposer à ses parents. Il avait bien trop peur de les décevoir. C'était un moindre mal si, pour l'éviter, il me décevait, moi.